Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez Crime Story, la disparition de la famille Flactif, deuxième et dernier épisode. Dans le premier épisode, le fils de Graziella Ortolano, Mario, signale à la police la disparition de sa mère, de son beau-père, Xavier Flactif, et de leurs trois enfants. Dans un premier temps, les enquêteurs pensent que les Flactifs ont pu fuir à l'étranger après avoir escroqué plusieurs personnes avec des investissements immobiliers. Mais du sang retrouvé en grande quantité dans la maison les oriente finalement vers la piste criminelle. Le mardi 13 mai 2003, un mois après leur disparition, le 4x4 Toyota Land Cruiser rouge bordeaux des Flactifs est retrouvé en Suisse, sur le parking de l'aéroport de Genève.
Le 4x4 rouge de la famille Flactif était ces derniers jours la voiture la plus recherchée par la police. C'est finalement en Suisse, non loin de l'aéroport de Genève, que le véhicule a été retrouvé. Aucune information pour l'instant sur son état et son contenu. Du Grand Bornand à Genève, peu de distance, 35 km seulement, parcouru donc par le 4x4 depuis le 18 avril dernier.
Il est transporté pour des analyses en Seine-Saint-Denis, à Rosny-sous-Bois, dans l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN. Dès le début de leur travail, les experts décèlent dans le fourgon familial plusieurs petites taches suspectes. Les analyses complémentaires confirment qu'il s'agit de sang humain. On identifie trois ADN des Flactifs, dont celui du père, Xavier. Pendant ce temps, les journalistes interrogent les habitants du village. Beaucoup de personnes n'apprécient pas les méthodes du promoteur immobilier. Il rachète les terrains du Grand Bornand au prix fort, parfois même en allant jusqu'au double du coût initial, puis il les revend, la plupart du temps, à des Anglais. Évidemment, ça dérange les locaux qui n'apprécient pas beaucoup de voir leur ville transformée et investie par des étrangers. Un voisin de la famille Flactif, notamment, se plie volontiers au jeu des caméras.
Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... Et puis que... Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça s'est pas mal passé, quoi. Bon, s'ils ont retrouvé du sang ou quoi, est-ce que c'est volontaire ou c'est pas volontaire, ça... Ça, on peut pas le savoir. Donc, beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Mise en scène ou pas, ça... Ou alors, c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, hein, c'est pas...
Sa compagne s'exprime aussi. Manifestement très remontée contre Xavier Flactif, elle tient des propos haineux et agressifs.
C'est un con. Hein. Déjà, il prend les gens pour des esclaves.
Qu'est-ce que vous faisiez, vous ?
Je faisais le ménage chez elle. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, hein, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, hein, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer trois fois parce qu'il en a rien à foutre. Il venait chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, et vas-y, piétinez tout. Hein. Et une fois, il y a eu une coupure d'eau, et c'est là que ça m'a donné à réfléchir. Je dis, alors là, c'est terminé, je n'y vais plus. Il y a eu une coupure d'eau, et le matin, je suis arrivée chez eux, donc elle m'avait dit, tu rentres, la porte est ouverte, tu commences la vaisselle. Et bon, je suis rentrée, ils m'ont pas entendu. Et lui disait à sa femme, là, Graziella, tu vas lui faire vider les chiottes, hein, ça pue la merde ici. Hein, y a une coupure d'eau et tout, de toute façon, elle est là pour ça. Hein.
Dans ces images, les voisins des disparus se font en quelque sorte les porte-parole de la colère anti-Flactif qui a gagné la région.
Avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui, même les agences immobilières. Hein, l'agent immobilier d'ici m'a dit il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là, hein, à cette heure-ci.
Damien Delceni, les deux voisins du reportage, connaissent très bien les Flactifs.
Oui, c'est un couple qui loue un chalet aux Flactifs depuis plusieurs mois. Ils s'appellent Alexandra Lefebvre et David Dautia. Et elle est même employée, elle fait le ménage chez les Flactifs. Donc c'est à la fois des voisins, un peu des employés, des gens qui rendent des services aux Flactifs. Et puis ce sont, alors c'est pas des amis, mais en tout cas c'est des gens qui se fréquentent.
Les gendarmes soupçonnent David Dautia d'être lié au meurtre.
il trouve d'abord que David Othia parle beaucoup aux journalistes. Et peut-être parce qu'il parle beaucoup, il parle un peu trop. Et il est un peu grisé peut-être par tout ça. Parce que, en fait, dans les déclarations qu'il va faire à la presse, les différentes déclarations qu'il fait, il y a des choses très contradictoires. Alors, il va par exemple dire que Xavier Flactif et sa femme étaient arrivés au chalet dans deux voitures distinctes, alors qu'en fait, ils sont arrivés ensemble. Et puis, il va même se trahir devant un journaliste qui lui demande s'il a vu Xavier Flactif le jour de sa disparition, le vendredi. Alors, David va répondre oui. Puis, il va se reprendre. Il va déclarer qu'en fait, il y avait seulement les 4x4 qui étaient stationnés à l'arrière du chalet. Et puis, encore une fois, le journaliste va le piéger indirectement puisqu'il demande le moment où il a vu Xavier Flactif pour la dernière fois. Et là, David Othia va répondre que c'était lorsqu'il était venu récupérer le double des clés d'un chalet à louer le jour de la disparition vers 18h30. Et puis, dans une autre question, il déclare enfin qu'en fait, il ne sait plus encore le jour exact de la disparition de la famille. Donc, il va tellement dire de choses qui ne collent pas, qui sont contradictoires, que les gendarmes vont quand même avoir un vrai, vrai doute sur son implication.
Dans le chalet, les investigations se poursuivent. 8 gendarmes passent 4 jours complets dans la maison à essayer de relever toutes les traces biologiques qu'ils peuvent trouver. Ce qu'on croyait être des morceaux de porcelaine, les débris blancs retrouvés entre les lattes du parquet, se révèlent être des éclats de dents de lait. En isolant les ADN contenus dans les traces de sang, on identifie les profils génétiques des 5 membres de la famille Flactif. Mais ce n'est pas tout. Un 6e ADN, inconnu, est identifié. Ça renforce la piste criminelle et accrédite l'hypothèse selon laquelle quelqu'un se serait introduit dans la maison et aurait tué les Flactif. Des gendarmes spéléologues fouillent alors les souterrains environnants à la recherche des corps. Parallèlement, des prélèvements ADN sont effectués sur une 100aine de résidents de la région pour trouver une concordance. Des connaissances de la famille Flactif ainsi que des personnes ayant travaillé avec le père Xavier se soumettent à ces analyses. Damien, l'information d'un possible assassinat fuite dans la presse et les mauvaises langues se taisent peu à peu.
Alors évidemment, tout le monde va être un peu stupéfait et commence à voir les choses autrement parce que tout de suite après la disparition, on l'a vu, de la famille, il y avait plutôt des commentaires un peu rudes sur Xavier Flactif notamment. Et là évidemment, il passe de gens qui auraient fui le fisc ou fui des gens qui leur devaient de l'argent ou à qui ils devaient de l'argent. Là, ils deviennent des victimes potentielles d'un assassinat groupé et ils sont pas partis a priori profiter de leur argent quelque part au soleil. Donc tout le monde est un peu gêné et un peu moins véhément qu'au début. Il y en a qu'un qui va continuer à être assez vindicatif, c'est David Othia en fait.
Le mardi 8 juillet 2003, près de 4 mois après la disparition des Flactif d'Amiens, les enquêteurs identifient l'ADN qui leur manquait dans ceux prélevés au chalet des Laurentières.
Ouais, et cet ADN, c'est celui de David Othia. Donc l'étau forcément se resserre, d'autant que les gendarmes ont maintenant la certitude que ce chalet a fait l'objet d'un nettoyage, même d'un lessivage, pourrait-on dire, très méticuleux. Donc le fait de retrouver quand même l'ADN de David Othia après ce nettoyage, ça rend vraiment la chose très très suspicieuse. Et puis cet ADN, il n'est pas retrouvé sur une poignée de porte, ou sur un coin de table, ou sur un journal qui traînerait quelque part. Il a été extrait à partir de traces de sang qui ont été découvertes, de sang mélangé qui ont été découvertes dans le chalet. Donc là, ça commence quand même à l'impliquer sérieusement.
Les gendarmes soupçonnent désormais David Othia d'avoir assassiné ses voisins. L'hypothèse est plausible, mais il y a quelque chose qui cloche. Même en cherchant bien, ils n'arrivent pas à dégager un mobile. Il semble qu'il n'y ait pas de conflit particulier entre les deux hommes. David Othia ne porte pas Xavier Flactif dans son cœur, c'est une certitude. Mais de là à assassiner de sang-froid toute sa famille, les gendarmes creusent un peu plus. David Othia a 31 ans, il est né le 23 octobre 1972 dans le Pas-de-Calais, à Arras. Son père était ouvrier et sa mère postière. Il passe sa jeunesse à Billage-Saint-Va, à quelques kilomètres de là. L'école ne l'intéressant pas, il effectue son service militaire en tant que casque bleu, en ex-Yougoslavie. Alexandra Lefebvre, sa compagne, n'est pas non plus une bonne élève. Après avoir quadruplé sa 5e, elle passe un BEP de secrétariat. À 17 ans, elle rencontre David Othia, avec qui elle emménage. En 1998, le couple a son premier enfant. Un an plus tard, il quitte le Nord-Pas-de-Calais pour s'installer dans l'Ain. Un deuxième enfant naît en 2000. À la fin de l'année 2001, David Othia et Alexandra Lefebvre déménagent à nouveau, au Grand Bornand cette fois. C'est là qu'ils font la connaissance de Xavier Flactif, en cherchant un logement à louer. Les enquêteurs placent David Othia et sa compagne sur écoute. Et les enregistrements leur permettent d'en apprendre plus. Non seulement David Otia et Alexandra Lefebvre sont bien impliqués dans la disparition de la famille Flactif, mais ils auraient en plus été aidés par un couple d'amis, Stéphane et Isabelle. Le mardi 16 et le mercredi 17 septembre 2003, 5 mois après le coup de téléphone pour signaler aux gendarmes la disparition de la famille Flactif, 4 personnes sont interpellées et placées en garde à vue à Thônes. Il s'agit de David, Alexandra et leur couple d'amis.
C'est à 8h ce matin que les gendarmes ont interpellé 4 personnes. 2 couples, originaires du nord de la France, dont l'un habitait tout près du chalet de la famille Flactif, au hameau du Chinaillon. Ils ont été placés en garde à vue à Annecy. Ce sont les traces de sang retrouvées dans le chalet des victimes qui ont permis de faire avancer l'enquête.
Damien, comment se déroule la garde à vue du suspect numéro 1, David Otia ?
Assez simplement, j'ai envie de dire, parce que dès les premières heures de sa garde à vue, David Otia, il est confondu par son ADN, qui a été retrouvé sur les lieux du crime, on l'a dit. Il va avouer le quintuple assassinat, et il va même conduire les enquêteurs dans un bois de Thônes, à quelques kilomètres du Grand Bornand, où il dit qu'il a incendié les corps. Il dit avoir agi seul, sur un coup de sang.
Et que disent ses amis et sa compagne, qui sont également placés en garde à vue ?
Alors, son couple d'amis, ils vont dire aux gendarmes que c'est David hein, qui a eu l'idée de tuer la famille après avoir regardé un reportage en janvier 2003 sur une émission de 7 à 8 sur l'affaire Stranieri. Stranieri, c'était un tueur en série français qui avait pour habitude de tuer puis de s'installer chez les gens qui l'avaient tué. Donc effectivement, il y a un petit rapprochement, un petit cousinage. Mais les gendarmes, ils sont aussi un peu persuadés que sa conjointe, qu'Alexandra, la conjointe de David, elle a joué un rôle très important dans la préparation du crime, dans le passage à l'acte, qu'elle l'a un peu convaincue, qu'elle l'a même aidée. Elle semblait tellement haïr les Flactifs, elle l'a même répété devant des caméras, qu'on ne sait plus si c'est lui ou si c'est elle qui a vraiment été au déclenchement de cette histoire-là. Alors le couple après qui a été mis, le couple d'amis qui est mis en garde à vue avec David et Alexandra, eux on sent qu'ils ont aidé pour la préparation, pour la dissimulation ensuite des preuves, peut-être pour le nettoyage aussi du chalet. Et puis on va retrouver divers objets appartenant aux Flactifs. Alors il y a du DVD, du matériel informatique, un caméscope, des téléphones portables qui vont être découverts à leur domicile. Alors ils ont même été jusqu'à piquer les jouets des enfants Flactifs, quoi. C'est-à-dire que des enfants qu'on vient de tuer, qu'on vient de brûler, et on leur pique leurs jouets pour les donner à ses propres enfants. On a envie de dire, en plus du quintuple assassinat, en plus ils se sont servis, quoi, chez leurs victimes après.
Est-ce qu'on sait comment les choses se sont déroulées ?
De ce qu'on sait, de la reconstitution qui a eu lieu, des éléments du dossier et des déclarations de David Otia, qui est quand même le principal suspect, c'est que lui, il prétend avoir eu rendez-vous avec Xavier Flactif le 11 avril dans l'après-midi pour avoir une explication avec lui. L'explication, elle aurait évidemment mal tourné. Alors lui, il va dire en fait qu'il voulait lui tirer dessus, mais en fait, pendant l'espèce d'explication, alors on ne sait pas s'il y a une dispute, une bagarre, un coup serait parti tout seul. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Il aurait donc tué Xavier Flactif, et pour ne pas laisser de témoin, bah, ensuite il aurait décidé d'éliminer tout le monde, toute la famille, donc la femme de Xavier et les 3 enfants. Avec des objets à la fois contondants, mais aussi avec le pistolet dont il disposait. Et ensuite, il y a eu le transport des corps qui a été effectué dans la voiture, qui est emmené en forêt où ils ont été brûlés. On n'a d'ailleurs jamais réussi à savoir comment ils avaient fait, ou comment il avait fait s'il était tout seul, David Otia, pour incendier les 5 corps dont on a retrouvé vraiment quasiment rien en fait dans la forêt. Il y a même des experts qui se sont penchés sur cette question, parce que c'est un corps humain, ça brûle pas très bien en fait, ça brûle même pas du tout. Donc il faut beaucoup de produits pour ce qu'on appelle des produits accélérants pour faire brûler un corps. Et là, on avait estimé que il fallait des quantités de produits astronomiques pour pouvoir brûler tous ces corps, au point où ils ont été incinérés, et même qu'il fallait un bûcher qui fasse plusieurs mètres de haut pour parvenir à tout ça. Et ça a été une des questions du dossier, parce que soit il s'était fait aider par plusieurs personnes, notamment pour transporter les corps, ce qui n'est pas non plus évident, et il y a eu toute cette question autour de l'incinération des corps, comment a-t-il fait, etc. Lui, il s'est pas beaucoup expliqué là-dessus, il a dit qu'il avait mis le feu au corps et que les corps avaient brûlé, mais ça a été une des questions importantes du dossier. Et après, il s'était débarrassé aussi de l'arme qu'il avait utilisée dans le chalet. C'est son frère en fait qui l'avait jeté dans un canal dans le Pas-de-Calais. Donc l'arme, elle a voyagé du chalet du Grand Bornand jusqu'au Pas-de-Calais chez le frère de David Otia, et c'est le frère de David Otia qui l'a acheté dans un cours d'eau là-bas dans le Pas-de-Calais.
David Otia est également confondu par un témoignage très précis. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors en fait, ce témoignage, il provient d'un vacancier. Lui, il arrive au Grand Bornand le vendredi 11 avril 2003, donc c'est le jour supposé de la tuerie. Et quand il arrive devant le chalet des Flactifs, en principe, il vient récupérer les clés d'une autre maison qu'il a louée pour une semaine de vacances. Mais quand il arrive, Xavier Flactif ne répond pas, et pour cause, et il va voir arriver des cendres, donc celui qui est David Otia, et qui va lui dire d'emblée « je suis le nouveau propriétaire ». Donc bon, le vacancier, il fait pas très attention, lui, il vient récupérer un jeu de clés. Et donc quand il récupère ce trousseau de clés là en bas sur le bord de la route devant le chalet, il dit « le type que je vois, il a l'air complètement normal, il est plutôt souriant, il a même l'air d'un type assez sympathique ». Donc il dit « j'ai absolument rien remarqué de suspect dans son comportement ». Et ce qui est quand même tout à fait glaçant, c'est qu'au moment où il y a cette rencontre, c'est-à-dire au moment où David Otia descend ses marches d'escalier, vient remettre un trousseau de clés à ce vacancier en lui disant « c'est moi le nouveau propriétaire », on sait maintenant qu'il vient de tuer 5 personnes, dont 3 enfants. Donc le sang-froid dont il fait preuve à ce moment-là est quand même, encore une fois, glaçant. Voilà. Il vient de tuer 5 personnes, 3 enfants, massacré complètement, et il descend remettre des clés comme si de rien n'était un vacancier, en lui disant en plus « je suis le propriétaire », ce qui donne en plus un côté... c'est moi le nouveau maître des lieux maintenant que j'ai supprimé ceux qui habitaient ici, quoi.
Damien, pour les enquêteurs, il reste une grande question. Quel est le mobile? C'est la jalousie?
Alors, il y a de la jalousie, énormément de jalousie. Il y a un peu de cupidité aussi, mais en fait, de ce qu'on comprend à la lecture du dossier, c'est que David Otia et sa femme, ils supportaient plus en fait d'être confrontés en permanence au quotidien à la réussite et au train de vie de leurs voisins. Les Flactifs donnaient l'impression de réussir beaucoup de choses. Alors on sait que c'était pas complètement vrai, mais en tout cas en apparence c'était ça. Et eux étaient dans une situation où ils avaient pas tout raté, mais enfin où ils avaient pas réussi grand chose, David et sa compagne. Ils supportaient plus en fait d'avoir sous le nez cette famille heureuse qui vivait dans un très grand chalet, qui en plus employait la femme de David comme femme de ménage, donc il y avait en plus cette relation de un peu de travailler pour ces gens-là, et ça ils le supportaient plus. Donc ils ont été dans un premier temps, quand ils se sont rencontrés au Grand Bornand, assez admiratifs de la famille Flactif, qui en plus leur permettait à la fois de louer un chalet, de travailler un petit peu. Donc il y a eu d'abord une relation pas amicale, mais en tout cas un peu d'admiration de David et de Alexandra pour les Flactifs. Et puis très très vite ils sont devenus envieux des Flactifs, et très très vite aussi ils ont commencé à être totalement aveuglés par la jalousie, puis par la haine qui leur a permis ce passage à l'acte effroyable.
Le vendredi 30 juin 2006, à Annecy, David Otia est condamné par la cour d'assises de Haute-Savoie à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Son ami Stéphane est condamné à 15 ans de réclusion pour complicité et association de malfaiteurs. Alexandra Lefebvre, l'ancienne compagne de David Otia, écope pour sa part de 10 ans de détention pour association de malfaiteurs et dissimulation de la vérité. Isabelle, l'épouse de Stéphane, doit purger une peine de 7 ans de prison. Enfin, Michael Otia, le frère de David, qui s'est débarrassé de l'arme, écope d'un an avec sursis. Depuis, le chalet des Laurentières a été racheté, refait à neuf, et il est mis en location pour les vacanciers de passage. Dans les commerces, comme dans l'agence de location, on évite de mentionner ce drame, cette affaire que les journalistes ont surnommée « la tuerie du Grand Bornand ». Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.